Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui avec nous, eh bien, nous aurons l'artiste multidisciplinaire pour son expo, Lou Snack, pour son expo La naissance de Vénus. Et puis en deuxième partie d'émission, eh bien, on va parler théâtre avec la metteur en scène Angela Conrad pour la pièce Platonov, Amour, haine et angle mort d'Anton Tchekhov au théâtre Prospero. Mais avant toutes ces belles rencontres, et j'espère que vous allez rester avec nous, on va entendre une chanson de Céphase qui s'appelle « On a mangé le soleil ».
Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune. Car après tard, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après car, car après tout, on peut se nourrir des. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après car, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Alors voilà, nous sommes avec Lou Snack. Bonjour Lou Snack.
Bonjour Arlette.
Ça va bien? Plaisir de vous avoir pour cette expo, La naissance de Vénus. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'annonce tout ce que vous faites ou ça c'est plus facile de dire ce que vous ne faites pas?
C'est gentil.
Vous êtes une sacrée artiste. Qu'est-ce que c'est? Alors, la naissance de Vénus, oui. Vénus, ben, quand on parle de Vénus, on parle de l'amour, on parle de... La nudité, en tout cas moi ce que j'entends par nudité, ça peut être celle du corps, mais ça peut être aussi celle du cœur.
Oui.
Aller très loin là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition?
Dans l'exposition, on va voir, techniquement, on va voir des dessins, des peintures, des photos, des GIF art, donc mes photos qui sont animées, aussi des sculptures cinétiques. Et tout ça dans le thème de la naissance du Vénus, de la Vénus.
Alors, comment vous le travaillez, ça, les peintures?
Ça fait 20 ans, en fait, que je travaille sur ce projet. Il y a 20 ans, je voulais travailler plus avec une réponse plutôt que des questions, comme je faisais auparavant. Et quoi, j'ai trouvé, qu'est-ce qui est une meilleure réponse que l'amour? Donc, j'ai voulu donner parole à un personnage qui est Vénus, qui est la déesse de l'amour. Et contrairement à la Vénus de Botticelli, la mienne, elle est née dans un cocon dimensionnel, ce qui va être présenté par des sculptures dans l'exposition. Oh. Et les peintures, je les travaille... J'ai amené la première de toute la série. Comme j'ai dit, ça fait 20 ans que je travaille sur ce projet. Donc, la première était faite en 2001. Donc, elle est présente dans l'exposition. J'ai fait exprès de l'amener juste pour faire le lien. Et ce que j'aimerais mentionner surtout, c'est que je travaille avec la même modèle depuis 20 ans.
Ah, Virgo, d'accord.
Oui, qui a été mon inspiration, ma muse pour Vénus. Elle est ma Vénus et elle est magnifique et je vois son corps est changé devant moi et c'est de toute beauté. Donc il va avoir quelques pièces depuis 20 ans et il y a la naissance de Vénus même, les photos et les sculptures qui sont vraiment de cette année, qui sont des œuvres récentes.
Ah non. Alors, quand j'ai lu sur vous, j'ai vu que vous travaillez par extraction. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, c'est au niveau des peintures. Donc, je gratte. Je suis sculpteur de pierre. Donc, j'ai arrêté de faire la pierre.
C'est magnifique.
Parce que, bon, les compresseurs, ça me faisait mal à mon corps. Et donc, j'ai dû arrêter. Les vibrations, ça ne m'allait pas. Donc, juste pour compenser, le pinceau est devenu pas assez fort dans ma main. Donc, j'ai dû prendre un exacto et commencer à gratter. Donc, ça me donne la satisfaction dans le geste. Et j'enlève le noir pour dévoiler le blanc, donc pour dévoiler la lumière, à la place d'appliquer le noir.
Ça doit être beau, ça. Je vais aller vous voir. Je ne suis pas encore allée vous voir, mais je vais à la galerie. C'est jusqu'au 24 octobre, donc on sera là. Vous parlez aussi de théorie des cordes.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
En général, les arts, la théorie des cordes et la physique quantique, c'est un peu... où la science est rendue en ce moment, où on est en train de fouiller au niveau de la science. Et comme vous savez, dans l'art, depuis toujours, les arts et les sciences ont avancé main dans main. Et on ne peut pas être artiste dans notre époque en faisant fi des sciences.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Alors, à ce niveau-là, moi, intuitivement, j'applique ces sciences où je suis inspirée, où je travaille avec ces théories dans mon œuvre. Exemple, ma narration sur la Vénus que je travaille depuis 20 ans n'est pas linéaire. Donc, ma naissance de Vénus est de cette année, tandis que Vénus, chez moi, était née déjà. Elle miroitait l'humanité et ce qu'on faisait à l'amour déjà il y a 20 ans. Donc c'est un peu ça que je veux dire. L'autre chose, c'est qu'elle est née d'un cocon dimensionnel. Ce que je propose ici, c'est que Vénus et le besoin de l'amour est venu chez les êtres humains en même temps dans les dimensions connues et inconnues à la fois. Donc elle était tellement forte, cette demande, qu'elle a apparu en même temps. Et voilà un petit peu mes parallèles, la façon que je l'interprète, moi, où les sciences sont rendues. Voilà.
D'accord. Et là, jusqu'à présent, le public qui est venu, quel retour on vous a fait? Parce que quand on fait de la... quand on peint, quand on fait de la sculpture, quand du dessin, de la photo, après tout, c'est très intime la réaction qu'on a, parce qu'elle nous appartient personnellement. Nul n'a le même œil.
Autant qu'il y a de monde, autant qu'il y a de,
je pense, de retour
sur une œuvre.
Ouais, c'est ça.
Et de retour. Exact. Je vais donner un exemple. J'ai reçu la famille de mon conjoint hier et c'était magnifique parce que les nièces étaient là et son papa était là et sa sœur et la belle-mère. Et c'était magnifique de voir chacun avait complètement des réactions différentes, mais tout aussi à l'écoute. Parce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'elle vit? L'œuvre vit malgré l'artiste. Bien sûr, elle va même dépasser l'artiste et surpasser la vie de l'artiste. Mais Par contre, si l'artiste est là, pourquoi ne pas en profiter pour savoir un petit peu c'est quoi qu'il y a derrière cette œuvre? Parce que les deux se valent, puis les deux peuvent exister l'un sans l'autre ou l'un avec l'autre. Tu sais.
Ah oui.
Et on laisse un peu de travail aussi pour nos critiques d'art, pour nos historiens après ça.
Mais des fois, il peut y avoir aussi, vous pouvez des fois avoir aussi la surprise d'une réflexion de quelqu'un qui voit quelque chose à travers vos œuvres que vous n'auriez pas eu l'intention d'y mettre ou que vous n'aviez pas vu vous-même. Ça vous est déjà arrivé?
Absolument, et toujours, presque toujours. Et c'est très rafraîchissant, c'est bien. Bien sûr, dépendant qui vient des constats, des fois ça me nourrit aussi. C'est toujours work in progress, c'est vivant. Tout ça est vivant, tous les dialogues sont vraiment vivants et sont tous les bienvenus, vraiment. J'ai les idées de comme quand on regarde une photo, comme oui. Je donne l'exemple d'une de mes photos à l'exposition qui est Vénus avec la sculpture, elle est à l'intérieur, au milieu de la nature. Il y en a qui vont plus fixer sur la nudité du corps,
oui. Il
y en a qui vont plus voir, ils vont pas comprendre c'est quoi la sculpture dimensionnelle qui est là. Et beaucoup vont voir aussi toute la nature qui prend énormément d'espace dans mon œuvre, surtout celle-là. Donc, ils vont commenter sur la nature. Donc, il y en a vraiment, c'est très, très différent à chaque fois et c'est magnifique.
C'est ça, c'est ce qui est toujours séduisant et séducteur aussi, c'est l'œil qu'on peut en avoir. Soit quelque chose qui peut nous gêner ou nous effrayer, puis c'est la chose qui nous reste en tête, soit ce qui va nous séduire et nous faire sourire ou bien les images des moments. J'ai toujours été fascinée chez certains artistes, comment on peut aller voir d'autres images que celles qui nous sont proposées à travers notre œil.
Absolument.
Des fois. Oui. Donc je trouve ça très beau. Alors on va faire une petite pause musicale et puis après vous nous raconterez un petit peu bien où vous êtes né, qui vous êtes et comment aussi vous êtes venu à tout ça. Parce que est-ce que c'est la peinture qui amène à la sculpture, est-ce que ça a commencé par la photo, par la vidéo, le chant, la musique, parce que vous êtes même aussi comédienne, donc il y a plein de talents, tous ces talents ne sont pas arrivés tout d'un coup. Donc on fait une petite pause musicale et on en parle dans un instant. À tout de
Avec
suite.
Avec plaisir.
Che dans le sous-sol de l'église de Chesterville il y avait un éclairage tamisé et deux allées de quilles. Alors pour inviter le gars qui faisait vibrer ton cœur de jeune fille, c'était l'endroit rêvé. Il n'était pas particulièrement viril, pas vraiment costaud, d'échec, c'était le héros. Et la fin de semaine, fixant le téléphone couché dans ton lit d'eau, tu rêvais de l'appeler pour lui demander. Cet enfant
Et voilà, donc c'était Blue Jeans Bleu qui nous chantait « Veux-tu jouer au bowling ?» Alors non, moi je veux continuer la discussion avec Lousnac. Pourquoi je voulais mettre deux cas. Donc vous êtes né à Beyrouth. Faudra qu'on pense avant de finir l'entrevue qu'on dise, parce qu'on n'en a pas parlé, à quel endroit est l'expo.
Donc c'est au 3623 Saint-Laurent, à Yellowfish Art Gallery, à peu près du Lut, si je ne me trompe pas. Oui.
Voilà. Et c'est jusqu'au 26 octobre.
24 octobre.
24 octobre. Oui. Donc jusqu'au 24, alors profitez-en, allez-y maintenant. Vous êtes né à Beyrouth ?
Oui.
C'est ça ? Vous avez vécu dans plein d'endroits, vous avez vécu à Londres, vous avez vécu à Paris, vous êtes venu ici après. Est-ce que vos passions, ce que vous faites, l'artiste que vous êtes devenu, c'est comme un amalgame de toutes ces choses que vous avez peut-être vues toucher dans différents endroits, dans différents pays et différentes cultures?
C'est sûr que j'ai le devoir de mémoire parce que à la base je suis d'origine arménienne. Donc c'est sûr que ça a énormément d'impact sur ma vie que je vis et la création que je fais d'une façon ou d'une autre. Donc je suis deuxième génération survivante du génocide. Ma grand-mère, elle a survécu, elle avait 5 ans durant en 1915 et elle s'est cachée sous des corps morts pour pouvoir survivre. Donc mes parents sont nés à Beyrouth, au Liban, comme qui était une des terres d'accueil pour les survivants et mes parents sont nés là, moi je suis née là, puis nous avons fui les bombardements, les premiers bombardements à Beyrouth dans les années 70. Nous avons été dans un village arménien au Liban, les Arméniens étaient neutres à l'époque, donc le village n'était pas touché et nous avons, pour faire une histoire courte, nous avons fui vers l'Angleterre après. Je venais d'apprendre à dire hello, que j'ai dû aller à Paris apprendre à dire bonjour parce que le travail de papa m'y a amené à Paris. Et après ça, quand on est arrivé en 82 à Montréal, j'étais très heureuse de connaître les deux langues.
Mais oui, ça c'était parfait. C'était le lieu parfait pour parler les deux langues.
Exact, parce qu'après l'arménien, l'arabe, le français, l'anglais, c'était assez pour les langues, quoi. J'étais pas linguiste.
Bravo en tout cas.
Merci. Je voulais devenir... je voulais être dans les arts des jeunes, dès très jeune, parce que quand j'étais à Paris, j'ai voulu rester là-bas pour aller aux Beaux-Arts, puis je n'avais que 15 ans, je savais que je voulais aller aux Beaux-Arts, mais malheureusement, bon, on est venu ici, mais heureusement maintenant, mais à l'époque, c'était malheureusement parce que je voulais rester là-bas, j'étais jeune, mais voilà, donc je me suis jamais posé la question quoi faire dans la vie, je savais dès le départ
faire. Ce mélange de tout, on commence bien quand même par quelque chose, ou peut-être que la peinture vous a toujours habité, vous avez toujours aimé ça, la peinture,
en
le
fait,
dessin, le...
Le dessin, oui. Le dessin, J'ai toujours dessiné. Et dans l'exposition, d'ailleurs, il y a des dessins très travaillés. Donc, je dessine toujours. J'ai des séries qui s'appellent « Dessiner pour garder la main agile ». Donc, je dessine presque tous les jours pour garder l'outil en huilé, comme on dit. Mais c'est ça. Pour les médiums dont vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi je fais autant de choses différentes, c'est parce que... moi, je dis la pensée est plus importante que le médium qu'on utilise pour le montrer,
oui, ça, c'est vrai.
Pour la montrer. Donc, si je dois laver la lessive pour montrer ce que je dois dire, je vais aller sur scène puis je vais laver la lessive. Alors, c'est pas important avec quoi je m'exprime. L'important, c'est que je m'exprime puis je me rapproche le plus à la pensée que je veux communiquer. Voilà.
Pas très beau. Bon, bah, suite à ça, je replie tout et je m'en vais. Non, je plaisante. Est-ce que quand vous faites, par exemple, comme vous avez envie d'aller à la découverte de l'humain, puis qui dit amour, dit partage, hein, dit lien,
oui,
lien social avec le monde, ce dont on a peut-être le plus besoin aujourd'hui même, encore plus que d'habitude, ou en tout cas de s'en rendre compte et de le mettre en route, est-ce que à travers, par exemple, la photo, c'est comme un œil merveilleux et indiscret un petit peu sur quelqu'un, sur quelque chose, et ça fait ressortir des choses qui sont différentes, par exemple, d'une peinture ou différentes d'une sculpture. C'est en ça que ma question
exact.
Était.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites exact. Et c'est souvent quand je veux exprimer ma tristesse que je vais chanter. Donc, c'est vraiment quand je veux parler de mon héritage, de ces histoires-là que je vais chanter parce que je trouve que le chant transporte bien la douleur. Quand je veux travailler la beauté, ça va être plus la peinture, la photo. C'est exactement comme vous dites, comme vous avez dit. C'est le médium change aussi par rapport à ce que je veux exprimer, bien sûr, mais aussi le contenu, qu'est-ce que je vais exprimer, à quelle intensité. Et voilà, quel propos exact.
En tout cas, c'est une belle recette. Moi, j'ai regardé vos vidéos aussi. Mm-hmm. Vous avez des vidéos qui sont très intenses, très parlantes sans texte.
C'est gentil. J'ai en fait les vidéos dont vous faites allusion. Il y a quelques-unes que j'ai faites pour les génocides, mais oui. Aussi quand j'avais fait la mise en scène pour Frédéric Garicomo au théâtre des Katsu, j'avais conçu aussi des vidéos par rapport à ses chansons à lui, à sa poésie à lui. Donc il y a quelques-unes de ces vidéos-là qui se trouvent, parce que c'est quand même des vidéos art qui sont signées que j'ai faites moi-même. Donc ils sont là sur mon site et je les trouve très 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 fort. Ils sont vraiment inspirés par les mots, les paroles de Frédéric, oui.
Sont puissantes. Et qu'est-ce que je voulais dire, le théâtre, le cinéma vous a attiré, le théâtre ne vous a pas attiré?
J'ai fait un petit peu, j'ai fait du théâtre expérimental, un peu théâtre contemporain, même corporel. J'ai fait une performance théâtrale à l'Arsenal il y a quelques années. Donc c'était vraiment quand ça rentre dans ma démarche artistique, il y a certains projets, je collabore avec d'autres personnes, je vais m'y prêter. Mais il faut que ça rentre. J'irai pas jouer dans un film ou faire une publicité, exemple. Ça, oui. Si ça n'a rien à voir avec ma démarche artistique.
Non, je pensais le théâtre au niveau de l'intensité, niveau de cette espèce de nudité, pour employer le mot, où l'on se met quand on est face à un public. Voilà.
Oui, exactement. J'ai fait des lectures à CAED. Au théâtre du Nouveau Monde, mais je me suis jamais donnée, parce que je trouve le théâtre, c'est comme vous dites, c'est tellement intense qu'il faut se donner à fond. Je sais pas s'il me resterait assez de temps pour faire autre chose si je fais du théâtre. J'ai commencé à apprendre des textes et des textes que qu'on doit performer.
En tout cas, Louznak, on arrive pratiquement à la fin de cette entrevue. Ça a été un grand plaisir de vous avoir, vraiment. On rappelle le nom de la galerie et l'adresse.
Yellowfish Art.
Oui.
Sur Saint-Laurent, donc jusqu'au 24.
Jusqu'au 24. Donc, vous êtes là-bas tout le temps?
Non, mais je vais être là-bas samedi et dimanche, et peut-être même vendredi.
D'accord.
Mais pas sûr, mais samedi, dimanche, pour sûr, je serai là.
D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, tout plein de projets. Et puis, vous êtes arrivé à avoir travaillé pendant beaucoup d'années pour faire naître un projet auquel vous teniez beaucoup. Donc, on vous en souhaite tout plein d'autres.
Merci beaucoup, beaucoup. Merci,
merci
beaucoup,
à vous. Et puis, bonne continuation. À bientôt quand je passerai. J'espère que ça va être un jour où vous êtes là.
D'accord.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt. On part en musique avec Chose Sauvage qui nous chante Ariane. Alors voilà, restez avec nous pour la deuxième partie. Donc comme on l'a annoncé tout à l'heure, c'était Chose Sauvage qui nous chante Ariane. Restez avec nous pour la deuxième partie. On parle théâtre avec Angela Conrad pour la pièce Platonov, Amour, haine et angle mort de Tchekhov au théâtre Prospero. À tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Alors, on vient d'entendre Hubert Lenoir qui nous chantait « Darling, darling ». Alors, nous sommes comme promis avec Angela Conrad. Bonjour, Angela.
Bonjour, Arlette.
Vous allez bien ? Oh là là, écoutez, moi, je vous connais parce que j'ai déjà assisté à des mises en scène de vous. Donc, j'adore voilà, ce que vous faites. Bravo pour ce
beaucoup.
Que vous faites. Donc, on va parler de Platonov, « Amour, haine et angle mort » d'Anton Tchekhov au Théâtre Prospero. On va dire que... Alors, c'est quand j'ai lu dessus, je ne connaissais pas cette histoire de Tchekhov. De toute façon, je ne connais pas tout non plus. Je me disais que c'était une histoire assez particulière et ma surprise totale avait été d'apprendre qu'il avait écrit ça lorsqu'il avait 18 ans.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte ? Vous le connaissiez déjà ? Est-ce que vous avez déjà vous étiez déjà attiré par le personnage, par Tchekhov, par l'écrivain ?
Oui, vous savez, j'ai monté ma première pièce à Montréal. Ça a été une adaptation de la série Z de Tchekhov.
Oui, je m'en souviens.
Des variations pour une déchéance annoncée. Et Platonov, c'était sur ma table de travail depuis quelques années déjà. Mais l'histoire de cette pièce est assez rocambolesque parce que c'est une pièce qu'il a écrite effectivement lorsqu'il avait 17-18 ans. Il avait proposé à une actrice très connue à l'époque, qui s'appelle Maria Yemelova, qu'il avait refusée. Et Tchekhov a remis cette pièce dans un de ses tiroirs et cette pièce est rentrée dans un coffre de banque où on l'a retrouvée presque 20 ans après sa mort. Coffre de la banque et la pièce, donc cette forme de manuscrit qui n'avait aucun titre mais qui avait une forme de
titre de travail qui s'appelait « Les 100 pères ». Et on trouvait en même temps dans le coffre de la banque un sac de sa mère. Donc on trouvait une pièce qui s'appelait « Les 100 pères », donc qui pose la question des pères, des fils, des rapports, des pères-fils, la transmission de l'héritage, qui est quand même un des grands thèmes des romans russes de l'époque. Et on trouve un sac à main de sa mère. Donc je trouve déjà en soi, c'est une histoire assez folle pour commencer. Et puis on s'est retrouvé avec des manuscrits dont on a commencé à faire des traductions qui sont arrivées en France dans les années 40-50. Mais très récemment, mais ça fait déjà maintenant, je crois, 15 ans à peu près, André Markovitch et Françoise Mauravan ont traduit l'ensemble des textes, des manuscrits, des différentes variations, etc. Et c'est un matériau, si on devait le monter intégralement, qui durera 8 heures.
Ah oui, en effet.
Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incommensurable. Oui. Et donc pour une dramaturge, adaptatrice et metteur en scène que je suis, c'est un terrain de jeu extraordinaire parce que j'ai taillé là-dedans, j'ai sculpté et puis j'en ai fait cette adaptation et donc j'ai opté pour quelques perspectives très précises. Voilà.
Alors en même temps, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi il me semble que c'est plus on prend des années, plus on travaille sur soi, plus on accepte de se regarder non plus dans les masques qu'on met dans la vie de tous les jours, mais à travers notre vrai visage. Or là, à 18 ans, il écrit déjà quelque chose où il montre un miroir aux autres qui l'entourent, alors sans, bien sûr, sans prendre de gants, on va dire, pour montrer ce qui se passe exactement. C'est fort, enfin moi je trouve ça très fort.
Ben, Tchekhov, le père était endetté, en faillite. Tchekhov, subvenu aux besoins de sa famille, il a écrit des vaudevilles qui étaient à la mode à l'époque. Donc, voilà, il a délaissé les vaudevilles pour écrire une première pièce qui est devenue Platonov et qui effectivement est empreinte d'une maturité absolument extraordinaire. Mais j'imagine qu'à l'époque, on est donc dans les années 1878 à peu près, la jeunesse russe avait peut-être une autre maturité donc à l'époque.
C'est vrai.
Et comme je le disais déjà, c'est quand même au moment où Anna Karenina apparaît, Dostoïevski écrit, et on sent que cette œuvre est traversée par les grands romans russes. Et donc Tchekhov était un grand lecteur, évidemment. D'ailleurs, cette pièce, on ne lui reconnaît pas vraiment une forme dramatique. Hein. Elle est traversée par des très grands monologues, donc une forme épique. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est Tchekhov, de son vivant, ne donne pas une forme finale à cette pièce. Un peu comme Büchner avec Wojciech. C'est pas un fragment, mais c'est quand même une pièce qui part un peu dans tous les sens. Et puis après, en même temps, ce qui est extraordinaire, cette pièce contient déjà toutes les autres pièces de Tchekhov qu'on connaît. Voilà.
Alors, on va raconter, parce que j'ai parlé un petit peu vite de ce qui s'y passe. Je vais vous laisser raconter un petit peu l'histoire, mettre en route un petit peu ce qui se passe, où ça se passe et comment ça se passe. Voilà.
Alors, j'ai donné un titre, un sous-titre hein, qui s'appelle Amour, haine et angle mort. Bon, amour et haine, ce sont évidemment des figures de l'état passionnel qu'on retrouve ici. En plus, avec les angles morts, on pourrait aussi dire amour, angle mort et haine, de voir comment les états passionnels, les êtres humains se transforment de l'amour pour aller à la haine, pour arriver à une forme de meurtre donc passionnel. J'ai essayé de faire comme une reconstitution d'une certaine manière. Donc en gros, la communauté se retrouve autour, comme souvent, une femme forte, mais veuve, qui est la générale Anna Petrovna, qui est jouée par Violette Chauveau, et qui tient salon d'une certaine manière dans son domaine, où ces gens se croisent, une communauté, voilà.
Il faut dire que c'est quand même dans la communauté russe, ce sont des Russes, des nobles déchus, on peut dire ça
déchus,
comme ça
hein,
endettés, qui n'ont plus de fortune, qui n'ont plus que leur nom ou leur éducation pour se tenir.
Absolument, qui ont encore des vieux réflexes de la vieille aristocratie sans avoir l'argent pour pouvoir le soutenir.
Voilà,
et
c'est
donc,
ça.
Donc se croise le beau-fils de la générale qui a épousé Sofia, qui sont très malheureux tous les deux, sans enfants. Se croise Platonov, l'instituteur, avec sa femme Sacha, dont il dira plus tard qu'elle est idiote. Ils ont un enfant qu'on ne voit jamais, mais qui est très malade.
Et lui-même, il est instituteur.
Il est instituteur, il vit d'ailleurs dans son école, mais bon, il n'en fait pas beaucoup état de ça, mais ce qui est important, c'est qu'il est censé d'être justement au cœur de la question de la transmission du savoir, et donc aussi au cœur de la formation d'une jeunesse, etc. Donc le rapport au temps, au futur, est évidemment très important. Et donc, je crois tous ces gens-là, Platonov qui séduit toutes les femmes, et ça c'est mon hypothèse, et c'est comme ça que j'ai orienté mon adaptation. Il y a ici la veuve, donc la générale, une femme qui boit, qui fume, etc. Et même le traducteur Markovitch avait l'hypothèse que Maria Yamolava a refusé ce texte parce qu'elle ne voulait pas jouer une femme de cet ordre-là. Oui. C'était quand même la figure d'une femme émancipée. Il y a Krekova, l'intellectuelle, la scientifique, qui n'est pas mariée, mais qui se laisse aussi séduire par Platonov. Il y a donc Sofia, la femme du beau-fils, qui était plus ou moins amante de Platonov dans la jeunesse, et puis après qui a pris un autre chemin. Et il y a aussi Sacha, la femme de Platonov, donc, qui, elle, la mère, donc, se retrouve aussi pris face à cet homme qui leur dit à tous, finalement, la vérité. Il dira à un moment donné, sur toute chose, on dit la vérité ou on dit rien. On dit de lui qu'il est un philosophe, il est philosophe, d'où le nom Platonov. En russe, veut dire le petit Platon ou le Platon en miniature. Donc, c'est un intellectuel qui renvoie à tout le monde, finalement, un miroir dans lequel il leur demande de se regarder. Ça a une force d'attraction négative. Tout le monde veut partir avec lui, refaire sa vie avec, et puis on se rend compte qu'on est dans des logiques d'amour passionnel qui finalement se révèlent être des transferts, manque à être l'un des uns sur les autres. Il leur dit, c'est pas moi la prolongation de votre désir inassouvi, il faut que vous preniez votre vie en main. Et on pourra même dire, dans ce sens-là, c'est un peu mon hypothèse, que c'est Platonov, c'est un féministe négatif, hein, ce qui renvoie les femmes à leur statut social. D'ailleurs, c'est le grand thème des romans aussi de l'époque, c'est-à-dire le carcan social, le statut social, le changement de la société, qu'est-ce qu'on fait du mariage, et comment on se réalise et qu'est-ce qu'on fait d'un avenir qui devient incertain à la fin du 18e siècle, du 19e siècle. Et c'est là aussi que je crée un parallèle, évidemment, avec aujourd'hui, c'est-à-dire l'avenir est hypothéqué, l'avenir est devenu non seulement incertain, mais peut-être même impossible. Oui. Ça pose évidemment la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Ou alors chacun court après son bonheur et donc à sa perte, comme dans la pièce, ou alors on essaie de constituer quelque chose qui soit de l'ordre d'une intelligence collective qui essaye de prendre la société et le futur en charge, en main. Et évidemment, ici, dans le roman, vous voyez, là, c'est intéressant, dans la pièce, on échoue, on tue Platonov, et une fois qu'on a tué Platonov, ben, on a tué d'une certaine manière cette source de vérité, et on continue à exister et à poursuivre son chemin dans le déni et dans l'aveuglement, quoi. Donc rien n'est résolu, et puis on continue encore à hypothéquer l'avenir, comme les pères l'ont fait avec leurs propres fils quelques années auparavant.
Parce que c'est bien comme ça quand même dans la vie, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le mensonge ou le... Il y a des choses du mensonge qui sont plus confortables à vivre que d'affronter une certaine vérité pour avancer. Et en même temps, c'est quelqu'un qui donne, en tout cas ça, c'est l'impression que ça donne, qui a vraiment une ouverture, un esprit très ouvert sur le féminisme, j'irais même jusqu'à dire, enfin, en tout cas sur la femme et la vie de la femme. Mmh. Et en même temps, c'est quelqu'un qui montre la vérité aux autres, mais qui se cache la sienne. On pourrait même dire qu'il ne la voit pas, la sienne, jusqu'au moment où le reflet va lui faire entrevoir certaines choses.
Oui, tout à fait. Vous parlez de la générale. Hein.
Oui.
Vous parlez de Sofia. Oui, absolument. Mais la générale, c'est vraiment la veuve du général qui n'a plus d'argent non plus, mais qui a encore des velléités d'aristocrate. Et puis, qui est un peu l'alter ego de Platonov. Elle est de son niveau intellectuel. Et quand il meurt d'ailleurs, ce qu'elle dira, c'est « Ah, ma vie, Platonov, ma vie ». C'est-à-dire Platonov, la branche à la vie. C'est la pulsion vitale ici. Et puis, non seulement parce qu'il a diverti, mais vraiment parce que il est de son niveau. Donc, c'est ça aussi qui est très intéressant, comment Tchekhov ici nous montre une femme libérée, d'une certaine manière, qui cherche son bonheur et qui est prête à justement dépasser tout, ou transgresser toutes les conventions sociales.
C'est l'histoire est passionnante et c'est ce que vous en avez fait sur scène est à voir aussi. Donc la scénographie, les costumes et même le choix musical, est-ce que vous avez participé à tout ça?
Ben moi, je signe la scénographie ainsi que les costumes et l'adaptation et la mise en scène parce que ça me semblait vraiment être un tout pour ce projet-là. Il fallait que toutes les conceptions, enfin, vont dans le sens justement de ce que j'avais envie de révéler dans ce texte, le choix musical également. Bon, ça se discute aussi parfois évidemment avec l'équipe, les acteurs, etc. Mais je savais d'emblée que je voulais épingler ces figures un peu comme on épingle les insectes et qu'on se penche au-dessus d'un laboratoire de l'humain. Parce que Tchekhov était médecin aussi, il avait cette faculté probablement empathique aussi d'observer le phénomène du vivant. J'avais l'impression en lisant Tchekhov que j'étais un peu au-dessus dans un laboratoire en train de regarder les insectes. Donc j'avais envie de les épingler et de radicaliser beaucoup les relations avec un aspect assez chirurgical pour voir ce qui se passe. Et puis j'avais envie qu'il y ait une cohérence aussi par rapport au costume. Donc l'idée c'était aussi de créer un espace vide et de tout faire apparaître dans cet espace vide. Donc aucun meuble, très peu d'accessoires. Mais pour moi le corps est très important, le schéma corporel. Et donc j'avais envie d'accentuer tout ceci, ouais, parce que c'est un théâtre très physique aussi. Et pour créer des dynamismes et des mouvements justement pour être à l'image de ces figures passionnelles.
Ils ont des costumes, mais vous restez. Est-ce que vous restez beaucoup dans le noir et blanc?
Oui, ça crée un contraste intéressant parce que j'aime bien. On est au théâtre. J'ai souvent un peu la frustration au théâtre de ne pas pouvoir contourner comme on contourne une sculpture dans un musée où le musée nous donne accès à la sculpture à 360 degrés. Donc j'ai besoin parfois de créer un contraste, effectivement, noir et blanc, pour détacher aussi des figures, des schèmes, pour bien les dessiner d'une certaine manière, pour donner à ce corps vraiment un volume, une ampleur. Absolument, oui, on est dans des noirs, blancs. Oui, c'est vrai, c'est un peu, je dirais, les chromatismes de base dans lesquels j'aime travailler. Mais c'est vrai que la lumière de Cédric Delambouchard, évidemment, elle est très importante aussi pour créer une architecture, un relief, différentes vibrations chromatiques. Et puis la musique aussi est très importante. Alors voilà, ça fait un tout, je dirais. Voilà.
Oui. Est-ce que vous avez, quand vous avez lu la pièce, eu l'impression de rentrer un petit peu plus dans ce qu'a été Tchekhov?
La pièce, je vous dis, c'est tout ce matériau-là, j'avais l'impression de rentrer dans un jardin, un jardin sauvage, comme ça. Et puis, moi, j'ai taillé à l'intérieur de ce jardin sauvage, donc j'ai relevé des choses, j'ai changé aussi les rôles. Le Klagoyalev qui tient les crayons, c'est-à-dire qui a racheté les dettes de la générale, donc elle est dépendante de lui. J'ai donné le rôle à une femme, Diane Humet, qui le joue, donc je trouvais ça intéressant aussi.
Ah oui.
Ici, l'argent est très important. Entre les échanges d'amour, de désir et d'argent, c'est comparable. Hein. Tout est marchandé d'une certaine façon. On marchande les affects, on marchande l'amour, on marchande l'érotisme, on marchande les dettes, etc. Cette question de dette qui se décline à tous les niveaux. Mais j'avais l'impression, effectivement, dans ce jardin sauvage, j'avais aussi une très grande liberté. Mais c'est sûr que mon adaptation amène un point de vue sur la fable. Et puis, Michel Tremblay retraduit la pièce pour la ramener encore au plus près de l'interprète, parce que pour moi c'était très important qu'on reste au plus près d'une parole qui surgit. Et je trouve que dans les adaptations françaises, dans les mises en scène françaises ou même allemandes que j'ai vues en France ou en Allemagne, souvent, peut-être c'est lié au fait que c'est une traduction, mais souvent le texte est à l'extérieur et j'avais envie que les acteurs puissent vraiment le faire surgir d'eux-mêmes, d'elles-mêmes.
Je comprends.
Et je crois que Michel Tremblay a réussi à le traduire, donc à faire une version québécoise. Et les acteurs me le disent, parce qu'on a repris déjà les répétitions, que le texte leur est encore plus proche. C'est le souhait de Michel Tremblay, justement, que ce qu'on entend sur scène nous ressemble aussi pour ceux qui sont dans la salle. Donc, c'est la quête de la vérité, c'est la même que Platonos, d'une certaine manière. C'est aussi la quête d'une authenticité. Et puis pour la reprise, mon travail de metteur en scène, ce serait justement d'approfondir encore, donner encore un peu plus d'ampleur et de volume à toutes ces dimensions humaines, vulnérables, paradoxaux, où on passe de l'amour à la haine, à la grande vulnérabilité, jusqu'à la grande perversion. Il y a ici quelque chose que Tchekhov tient en balance, qui est absolument vertigineux.
Il y a des grands beaux rôles féminins dans cette pièce.
Oui.
Et
oui.
Comment vous voyez Platonov ? Parce qu'il a, il ressemblerait assez... Est-ce un homme qui aime les femmes ou c'est un homme qui se noie dans l'amour et dans le fait de le gagner pour oublier une certaine tristesse ou dévalorisation ou je ne sais pas.
Non, je pense que c'est un homme qui cherche à attirer le regard, qui sait quelque part au centre. C'est un astre des astres. C'est quelqu'un qui attire et qui
détruit.
Et qui détruit aussi. Et qui détruit, mais qui détruit justement parce qu'il révèle le mensonge vital, dirait Ibsen d'ailleurs. Hein. C'est à peu près la même période. Il y a dans Ibsen beaucoup aussi la question dans Le Canard Sauvage du mensonge vital.
Oui.
Il y a un médecin d'ailleurs qui dit dans Ibsen à un moment donné, si vous enlevez le mensonge aux gens, vous leur enlevez le bonheur.
Oui.
Donc vérité égale souffrance. Donc c'est aussi toute la question qui est posée ici, c'est la souffrance humaine, du déni aussi, comment ça rentre dans sa propre vie. Et donc lui, il détruit parce qu'il cherche à révéler la vérité, mais il détruit aussi parce qu'il séduit et puis finalement il délaisse. Donc
oui.
C'est quelqu'un qui souffre lui-même de sa propre narcissisme. D'ailleurs, il dira de lui-même qu'il a mal à Platonov. Et quelqu'un dira, Glagoïa Alep dans la pièce, mais j'ai donné la réplique à Grekova, il dira la meilleure expression de l'incertitude de notre époque, c'est ça qu'il est, Platonov. Donc effectivement, il incarne, il devient une allégorie de l'incertitude de l'époque, avec, comme je le disais tout à l'heure, ce passé hypothéqué par les pères défaillants, avec un futur aussi incertain, voire impossible. Il est au milieu de tout ça, il brasse au sein du présent, il creuse des galeries, en fait, dans les psychismes des uns et des autres. Et voilà, il renvoie aux femmes une image terrible, parce que voilà... une image qui tend pas vers l'émancipation, sauf pour la générale, mais qui tend vers la dépendance, vers finalement une figure aussi de l'amour romantique qui sera un amour dévorant, etc., mais qui sera jamais un amour heureux.
Ah oui, ça c'est certain. Il y a combien de personnages ? Parce qu'il y a trois hommes et cinq femmes, c'est ça ? Non ?
Il y en a huit en tout,
oui,
effectivement.
Oui.
Il y a Renaud Lassalle-Bourdon qui joue dans Platonov, Samuel Couteau, côté pour Nicolai, voilà, Olivier Turcotte qui joue le beau-fils. Et puis après, il y a Violette Chauveau pour le rôle de la générale, Marie-Laurence Moreau dans le rôle de Sophia, la femme du beau-fils, et Debbie Lynch-White pour jouer Sacha, la femme de Platonov, et Diane Lumet pour jouer Glagoïeva, une voisine. Qui détient l'argent, et Pascal Grévillon qui joue Grekova, l'étudiante en chimie. Donc, 8 personnages en tout. J'ai beaucoup réduit, évidemment.
Oui.
Donc, j'ai densifié aussi les relations. Et puis, pour moi, c'était important de créer aussi, à travers l'adaptation, une machinerie théâtrale dans laquelle les acteurs et les actrices ont du plaisir à se jeter dedans comme on se jette dans la reine. Donc pour moi, c'est très important, ça, justement, qu'il y a du plaisir à ça. D'ailleurs, on a beaucoup de plaisir à se retrouver. C'est une très belle machine théâtrale dans laquelle les acteurs, oui, on leur demande de jouer sur toutes les gammes, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est très jouissif aussi pour eux et pour moi.
Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette entrevue. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, on répète que, donc, Platonov, donc, on dit bien amour, haine et angle mort, parce qu'il y a des angles morts du côté de l'amour et du côté de la haine aussi. C'est au Théâtre Prospero. C'est du 23 novembre au 11 décembre. Et voilà, donc, comment vous vous sentez à un mois du début?
Bah, très joyeuse pour la reprise, parce qu'on se rebranche à la création. Donc, en tant qu'artiste, retrouver la salle de répétition, les acteurs, les actrices, et être branché à la vie, quoi. On sent que ça
c'est
nous
bien.
A manqué après presque 18 mois de pandémie.
Ben, je comprends.
Je me sens un peu fébrile par rapport à la rencontre avec le public. Vous l'avez lu encore dans Le Devoir ce week-end. Les personnes hésitent à y aller au théâtre. J'ai juste envie de dire aux personnes qui
nous
écoutent, allez-y au théâtre.
Allez au théâtre, ça craint rien, c'est beau, ça va vous sortir de vos, vos peurs et de vos tristesses.
Exactement. Voilà. Et puis, c'est, moi, quand j'ai retourné au théâtre après un an, j'étais frappée, alors que ça fait quand même 25 ans que je fais du théâtre, frappée à quel point le théâtre me rebranche à la vie, au vivant et au réel. Parce que fondamentalement, dans ce terre-là d'écran, de numérisation et de révolution technologique, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que le théâtre qui est réel. Alors, venez nous voir, touchez un peu à la question du réel et puis branchez-vous à la vie. Ça va vous faire du bien. Venez nous voir. Voilà,
c'est merci beaucoup. Merci beaucoup, Angela Corrado. Au revoir, à bientôt.
Merci, merci beaucoup, au revoir.
Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison, parce que je connais pas grand-chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal. Parce que je connais pas grand chose dans vie, à part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Là je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose dans vie, à part que les chauves-souris ont des cheveux. C'est curieux, est-ce qu'elles nous auraient menti? Candy, can't you see? Je suis Candide, qu'en dis-tu, toi, quand tu me vois pleurer de joie? La vie est vide de sens ici, on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête, sortons et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort, fait que ça sert à rien de se faire du tort avec notre Holocène. Le pétrole d'Alberta. Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher. Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain, la shop va fermer. Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné. La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici. Candy, can't you see? Je suis Candide, qu'en dis-tu, toi, quand tu me vois pleurer de joie? La vie est vide de sens ici, on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Avec le sort de ma communauté, même si en Ontario, y en ont pas trop, trop d'écoles franco. S'excuser de vivre en français, c'est comme demander, je peux-tu respirer là, s'il vous plaît? Mais jamais nous nous mettrons à genoux, whatever you tell us to do.
Alors voilà, on est à la fin de cette émission. Donc on vient d'entendre Émile Bilodeau qui nous chantait Candy. Donc merci Nicolas Wartmann à la technique. Et puis merci à Angela Corrad. Merci à Lou Snack aussi. À vous tous aussi, on se retrouve demain pour une nouvelle semaine. Et puis comme d'habitude, je vous le dis, si vous voulez m'écrire, farahharlette@gmail.com, j'attends de vos nouvelles. Merci à tout le monde. À demain. Bye bye.